Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, Donald Trump parviendra-t-il à arracher la paix en Ukraine ? Durant la campagne américaine, il se faisait fort de mettre un terme à la guerre en 24 heures sans expliquer comment. La réalité et la complexité du conflit semblent avoir depuis rattrapé le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui a désormais donné 100 jours à son émissaire spécial, l'ancien général Keith Kellogg, pour trouver les voies d'une trêve entre Moscou et Kiev. Alors que les Européens ont aujourd'hui renouvelé leurs sanctions contre la Russie, Vladimir Poutine se dit prêt à discuter avec Donald Trump, qui a lui aussi haussé le ton la semaine passée en menaçant Moscou de nouvelles sanctions. Quelle stratégie entend suivre Donald Trump pour arracher la paix, mettre un frein à cette guerre, qu'il juge d'ailleurs ridicule? Et l'Ukraine sera-t-elle invitée à la table des négociations? On en parle ce soir avec nos invités, à mes côtés dans ce studio, Guillaume Ancel, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette chez Flammarion, et du blog Ne pas subir. Bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous, Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Eurocréative. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les deux. Guillaume Ancel, est-ce que le retour de Donald Trump peut amorcer un tournant pour le conflit en Ukraine après près de 3 ans de guerre ?
En fait, il l'a déjà amorcé. Dès son élection, Donald Trump a demandé à son équipe de commencer à discuter avec le cercle de Poutine. Et d'ailleurs, ils ont été aidés par l'administration Biden, qui comprenait parfaitement ce que voulait faire le futur président Trump. L'idée de Trump, c'était d'arracher un accord pour son investiture, puisqu'on se souvient que pendant les élections, il avait promis peut-être un peu rapidement qu'en 24 heures, il allait plier ce sujet. Son équipe a beaucoup négocié, mais n'a pas obtenu ce que voulait Donald Trump, je pense essentiellement à cause d'un choc des cultures. Trump, c'est un affairiste qui veut faire des deals et qui, par conséquent, est d'abord sur l'aspect financier et économique. Et il a essayé de convaincre l'entourage de Vladimir Poutine que c'était une très mauvaise affaire de continuer cette guerre et qu'il finirait par ruiner sa société. Ce qu'il n'a pas saisi à ce stade, c'est qu'en face de lui, il n'a pas un homme d'affaires, mais le chef d'une mafia qui s'est emparée de la Russie et qui n'est absolument pas sensible à ses arguments, puisque c'est lui qui décide du niveau de satisfaction économique et sociale de la société russe. Mais qui, par contre, Vladimir Poutine, n'a pas de marche arrière. Et donc, ils ne se sont pas mis d'accord à ce stade, mais je suis à peu près persuadé que dans les mois qui viennent, ils arriveront à trouver un accord. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre dans cette situation, et la Russie de Poutine non plus.
Qu'est-ce que Trump peut faire valoir aujourd'hui à Vladimir Poutine que ne pouvait pas faire hier Joe Biden ?
Alors déjà, il y a une différence de taille, c'est que Trump est extrêmement déterminé. On peut lui reprocher tout le reste. Pour moi, c'est vraiment une horreur, ce type de personnalité en politique. Ce qui n'empêche que lui, quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Alors que Biden aura régné par son indécision. On se souvient de toutes ces tergiversations. Est-ce qu'on livre 2 chars Abrams ? Est-ce qu'on livre 1 missile Atacom ? Il ne faudra pas l'utiliser. En fait, Trump a 2 leviers. Il a les sanctions financières, qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait fait jusqu'ici, parce qu'il ne se contente pas de dire « on ne va plus acheter de gaz russe ». Il dit « si jamais n'importe quel pays commerce avec un navire de cette flotte, il fera l'objet de sanctions judiciaires aux États-Unis. » Et là, je peux vous assurer que tout le monde s'arrête, y compris les ports chinois, tellement ils ont peur d'être poursuivis, bien sûr financièrement, après par la justice américaine. Pour l'instant, Trump ne l'a fait qu'avec des compagnies de seconde zone. Mais s'il le fait avec les compagnies principales russes, elles seront étranglées financièrement. Et d'autre part, il a un levier militaire qui est très fort. C'est que vous aurez noté que jusqu'ici, il n'y a pas un avion ukrainien qui a battu un avion russe, notamment au-dessus du territoire russe. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas autorisé les Américains, les F-16 ukrainiens, à utiliser l'armement qui leur permettrait d'intercepter les avions qui bombardent au quotidien la ligne de front et qui sont obligés de se rapprocher.
Donc le feu vert est dans les mains de Donald Trump.
Trump peut faire, au même titre qu'il peut livrer des centaines d'avions F-16 alors que les pays européens sont en difficulté pour en livrer quelques dizaines. Donc il a des armes militaires et il a des leviers financiers.
Ulrich Bouna, pourquoi Poutine se dit prêt à discuter maintenant ? Est-ce que c'est seulement en raison de la personnalité déterminée de Trump ?
Alors, pour le coup, Vladimir Poutine a toujours dit qu'il était prêt à négocier, depuis le début de la guerre, finalement. En revanche, c'est toujours, il cherche à négocier, mais on va dire sur ses propres bases à lui de négociation. Donc concrètement, il n'a pas véritablement changé de discours. Il y a toujours un petit peu un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Vladimir Poutine, où d'un côté, il se présente en homme de paix, notamment vis-à-vis des pays du Sud, mais d'un autre, et il présente la Russie comme agressée, finalement, dans une espèce de retournement de perspective. Et d'autre part, effectivement, il pose ses conditions qui sont toujours maximalistes. Le désarmement de l'Ukraine, conserver un maximum de territoires occupés, voire même plus, etc. Le lever des sanctions, etc. Donc, je dirais que Vladimir Poutine essaye actuellement, en ce moment, il a une stratégie qui vise à effectivement montrer qu'il n'est pas fermé à l'option de la paix, puisqu'effectivement, il y a un risque de sanctions si jamais il décidait de poursuivre. Mais en revanche, il continue quand même à pousser ses options maximalistes pour essayer justement d'arriver en position de force maximale à l'ouverture des négociations qui s'ouvriront quoi qu'il arrive.
Il a dit clairement à Trump, pas une trêve, une paix complète. Qu'est-ce qu'il entend avec ces termes-là, Vladimir Poutine ?
Je pense que qu'entend par là Vladimir Poutine, c'est que pour lui, en fait, ce qu'il cherche véritablement, c'est, on va dire, une espèce de Yalta 2.0, où finalement, les Américains et les Russes débattraient un petit peu du sort de l'architecture de sécurité européenne, et finalement octroieraient, en quelque sorte, à la Russie une espèce de droit de veto sur pas mal de choses. Peut-être un retrait de certaines forces de l'OTAN, des pays, par exemple, de la Pologne, le fait que l'Ukraine resterait un pays neutre et n'intégrerait jamais l'OTAN, peut-être aussi une diminution de la taille de l'armée ukrainienne. C'est un peu ce genre de choses-là, et donc parce que l'une des craintes, je pense aussi, de la Russie, c'est de se dire, si je souscris à un cessez-le-feu demain, rien n'empêchera peut-être l'Ukraine, qui ne reconnaîtra jamais que les territoires occupés par la Russie appartiennent à la Russie, rien n'empêche que peut-être d'ici 5 ou 10 ans, lorsque l'Ukraine aura récupéré une capacité militaire extrêmement forte et lorsqu'elle sera peut-être épaulée par les Européens, par exemple, pour son industrie d'armement, rien n'empêcherait que les Ukrainiens reprennent le conflit et que la Russie soit peut-être dans une position un peu plus faible. Donc, il espère probablement faire un deal global avec Donald Trump sur le dos de l'Ukraine et des Européens.
Guillaume Ancel, est-ce qu'il y a, le dit Ulrich Bonnat, la tentation d'un nouveau Yalta, ces grandes puissances qui se partageaient ces sphères d'influence après la Seconde Guerre mondiale? Il y aurait une tentation côté russe, mais peut-être côté américain. Chez les faucons américains, on se passerait bien des acteurs superflus. L'Union européenne, l'Ukraine, c'est la grande crainte d'ailleurs aujourd'hui, l'Ukraine.
C'est clair, Ulrich l'a très bien esquissé. Ça fait 2 mois, en fait, que l'équipe de Trump négocie avec celle de Poutine. Il n'y a ni les Européens, ni les Ukrainiens. Et c'est très frappant, si vous écoutez les discours de Zelensky, comme d'ailleurs nos dirigeants européens, en fait, ils se morfondent de pouvoir donner leur avis à Trump. Donc, ils ne cherchent même pas. On voit bien qu'ils ont été exclus de ce cercle de négociation parce qu'ils n'y ont pas accès. Ils ont juste le droit de dire, à la sortie des négociations, on aurait aimé que vous nous écoutiez sur tel ou tel sujet. Les Européens ont été prévenus par l'OTAN qu'ils seraient chargés de mettre en place une force de dissuasion qui sera en fait garante de la ligne de démarcation que voudrait signer Trump. L'idée de Trump, elle n'est pas très compliquée, hein, c'est celle de la Corée. La ligne de front devient une ligne de démarcation et on dit qu'on s'arrête là pour l'instant. Ça dure depuis 75 ans en Corée. Donc c'est extrêmement inquiétant pour les Européens.
On gèle les lignes de front.
On gèle la ligne de front, on négocie à la marge de rendre, par exemple, les quelques centaines de kilomètres carrés dans lesquels les Ukrainiens ont envahi la Russie, et puis éventuellement, en échange, les Russes rendent quelques centaines de kilomètres carrés, et on s'arrête là. Mais on voit bien que, dans la situation actuelle, comme le rappelait Ulrich à l'instant, c'est qu'en fait, Poutine avance. Il avance très doucement, mais il avance, et il a sans doute en idée de pouvoir conquérir les oblasts qu'il a fait formellement rattacher à la Russie, tout ça avant une date qui est cruciale pour lui, le 9 mai, la fête de la victoire. On se souvient que l'année dernière, il était très frustré de ne rien avoir pu fêter. Je pense que cette année, c'est sans doute une échéance pour lui.
Qui ne sont pas reconnus au niveau international, hein, bien sûr. Ces conquêtes dans les oblasts, notamment de Louhansk, qui ne sont pas reconnus internationalement.
Elles sont totalement rejetées, mais de toute façon, ce que veut faire Poutine aujourd'hui, qu'accepterait Trump, est totalement illégal. C'est d'aller modifier les frontières par la guerre et c'est la fin du règne du droit.
Mais je reste justement sur cette question de nouveau Yalta. Est-ce qu'on peut imaginer un accord de paix ou même des pourparlers de paix sans les Européens et sans les Ukrainiens. C'est la grande crainte exprimée aujourd'hui par Zelensky, qu'en appelle d'ailleurs ses alliés européens pour mettre en place un format où il sera dit que Kiev a son mot à dire dans la fin d'une guerre.
Tout à fait. Pour le coup, effectivement, c'est la grande crainte. Les Ukrainiens ont vraiment peur, effectivement, que les choses soient faites sur leur dos, effectivement. Crainte qui est motivée par deux facteurs. Effectivement, le côté Donald Trump et Vladimir Poutine ont une vision un petit peu simpliste et impérialiste du monde. On l'a vu encore avec la Colombie, peu plus tard qu'hier, avec les États-Unis, où effectivement, voilà, finalement, les pays les plus faibles doivent s'incliner devant les pays les plus forts. Et finalement, les Américains ont quand même une carte majeure sur les Ukrainiens, qui est de couper le robinet de l'aide financière et militaire pour forcer un peu la main des Ukrainiens. Donc, s'il y a une vraie crainte... Et effectivement, les Européens, on voit, il y a une volonté de s'organiser, il y a une volonté notamment de plusieurs pays, les Européens au sens large, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc., la Pologne, qui essayent de vouloir peser un petit peu sur le processus décisionnel au sein de l'équipe Trump, mais c'est compliqué. Et effectivement, le risque, c'est ça, c'est qu'on soit un petit peu tous mis devant le fait accompli, alors qu'il s'agit du futur, quand même, de l'architecture sécuritaire de l'Europe, mais qu'effectivement, tout le monde soit mis un peu devant le fait accompli et doivent s'incliner, finalement, devant ce qu'auront décidé Trump et Vladimir Poutine, sachant que, finalement, peut-être la carte à jouer pour les Européens, c'est justement cette capacité à déployer des hommes sur le front, et s'ils le font, ça pourrait peut-être permettre aux Européens de peser un peu dans cette négociation.
Alors, justement, si on prend l'exemple nord-coréen que nous citait Guillaume Ancel, on gèle le conflit sur ses frontières actuelles, une ligne de démarcation. Zelensky demande déjà à ce qu'il y ait des troupes qui viennent s'assurer que la guerre ne reparte pas. Il le demande à ses alliés. Moscou, bien sûr, s'y oppose. Est-ce qu'on peut imaginer, comme le demande le président Zelensky, 200 000 soldats alliés pour faire en sorte que la guerre ne reparte pas?
Alors, Zelensky est en pleine négociation, même si c'est pas lui qui négocie, mais il essaye bien sûr d'influencer la négociation. C'est pour ça qu'il parle de 200 000 hommes. En fait, l'OTAN planche sur un 100 000 hommes par an, qui, du fait des rotations des unités, quand on est en projection, on ne reste rarement plus de 6 mois. Les mêmes unités, ce serait trop long. Ça fait 50 000 hommes à l'instant T. Mais cette force, elle serait suffisante et en même temps inquiétante. Elle serait suffisante, une force de 50 000 hommes, parce que pour la Russie, réattaquer l'Ukraine, c'est attaquer cette force. Et donc, c'est se mettre à dos. Ce seront essentiellement des membres de l'OTAN. Et par conséquent, en fait, ça déclencherait un mécanisme de sécurité collective. Pour moi, elle est aussi très questionnante. Parce que si on avait envoyé cette force pendant les semaines qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont les Américains nous ont parfaitement informés. Pourquoi ? Parce qu'ils surveillaient l'entourage de Poutine et ils savaient les ordres qu'avait donnés en réalité Poutine. Si cette force avait été en Ukraine, je pense que l'armée russe ne serait jamais rentrée. Et c'est notre lenteur à agir et surtout notre incapacité à former des États-Unis d'Europe. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de l'armée américaine, elle est du fait que les Américains n'ont pas 50 armées, alors que l'Europe a 27 armées. Elle est là la différence.
Des soldats de l'OTAN sur la ligne de démarcation, est-ce que c'est possible malgré le veto des Russes ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher des soldats en dehors, par exemple, des pays des BRICS, plutôt que ce que Poutine considérerait être comme une provocation. Hein, il a dit jamais.
Alors, effectivement ça, la posture de Vladimir Poutine se comprend et elle est logique. Après, effectivement, c'est finalement le gros point en fait qui va nécessiter des négociations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, dans une négociation, chacun doit un peu lâcher du lest. Les Ukrainiens vont probablement devoir lâcher les territoires occupés par Moscou, ce qui serait déjà une belle victoire pour Vladimir Poutine. Il est possible aussi qu'ils doivent lâcher sur leur intégration à l'OTAN, deuxième concession à Vladimir Poutine. Donc, et au bout d'un moment, en fait, ça ne pourra pas être... Soit c'est une capitulation de l'Ukraine aux conditions de la Russie, et là, effectivement, à ce moment-là...
C'est ce que souhaite Moscou, hein, c'est une capitulation de fait.
C'est ce que souhaite Moscou, mais effectivement, si Vladimir Poutine souhaite une levée des sanctions, ou au moins une partie des sanctions, souhaite revenir dans le jeu international avec un statut, entre guillemets, de grande puissance, il est probable que ce soit l'un des aspects sur lesquels ils doivent lâcher. Et pour le coup, Donald Trump a été relativement transparent par rapport à ça. Il a dit qu'effectivement, si Vladimir Poutine n'était pas de bonne volonté, pour faire simple, les sanctions s'accumuleraient. Et effectivement, les sanctions sur le pétrole, elles sont très probables et elles feraient très mal à l'économie russe.
C'est ce qu'on a observé cette dernière semaine, et c'était presque surprenant. Donald Trump haussant le ton face à son ami, entre guillemets, Vladimir Poutine. Est-ce que c'est parce que le nouveau président américain a mesuré le risque qu'il y aurait à accorder une victoire géopolitique complète à Vladimir Poutine?
C'est d'abord la déception de ne pas avoir obtenu deal pour son investiture qui avait lieu le 20. En fait, Trump voulait absolument annoncer, comme il l'a fait en parallèle sur Gaza, parce qu'il a imposé sa trêve à Benjamin Netanyahu, qui n'a absolument pas l'intention d'arrêter sa guerre. Je rappelle que sa guerre permet à Netanyahu de se maintenir au pouvoir.
Et à nouveau, c'est l'armement qui a permis d'avoir cette trêve.
Bien sûr, c'est l'armement américain
qui jouera dans le conflit ukrainien.
Qui a permis à Netanyahu de pouvoir continuer. Et là, en Ukraine, je pense que pour Trump, ça a été un choc de se dire que Poutine avait osé lui résister alors qu'il avait donné beaucoup de signes de « on va trouver un deal parce que nous, on est capable de s'entendre ». Il continue à négocier. Et on voit bien que Poutine fait attention dans ses déclarations de ne surtout pas humilier Donald Trump parce qu'il sait mieux que personne que Trump est aussi incontrôlable que lui. Et que Trump pourrait très bien réarmer massivement l'Ukraine pour provoquer et, comment dire, mettre en grande difficulté l'armée russe, une armée russe qui est au bout du rouleau. Une armée russe qui n'avance qu'au prix de pertes effroyables. Et donc, Poutine sait très bien qu'il a une marge de manœuvre militaire qui est réduite. Il peut avancer encore un peu, mais c'est son intérêt d'arrêter assez vite cette guerre, parce que sinon, le boomerang peut lui revenir dans la figure.
Est-ce que Donald Trump a également compris qu'une trop large victoire pour Poutine, ça le mettrait lui-même en danger par rapport à un autre ennemi, la Chine, qui elle-même a ses propres ambitions sur Taïwan? Cette loi du plus fort que Poutine tente d'imposer, elle serait véritablement mauvaise pour l'équilibre du monde demain, non? Et pour le président américain?
Alors, Donald Trump est complètement dans cette optique de loi du plus fort, pour le coup. Mais effectivement, et c'est, je pense, un peu le sens de notamment de toute la communication des Ukrainiens sur la présence des soldats nord-coréens, c'est de faire comprendre, effectivement, à tout le monde, et notamment à la nouvelle administration américaine, que ce qui est en train de se créer un axe, en fait, entre Pyongyang, Moscou, Téhéran, avec la Chine derrière, et qu'effectivement, octroyer, comme vous l'avez dit, on va dire une capitulation de l'Ukraine en faveur de la Russie, ce serait effectivement renforcer un axe qui est hostile, en fait, à l'ordre établi, qui est hostile aux États-Unis. Et donc, il y a probablement une perception, effectivement, alors peut-être pas chez Donald Trump, mais au moins chez une partie de son équipe, qu'effectivement, donner un blanc-seing à Vladimir Poutine sur l'Ukraine, ce serait effectivement se mettre en difficulté dans une négociation à venir beaucoup plus importante sur la Chine vis-à-vis de l'avenir en fait, des relations sud-nord-américaines et globalement de l'ordre international.
Est-ce qu'il y a, Guillaume Ancel, aussi la volonté de Donald Trump, hein, vous l'évoquiez d'ailleurs, que ce soit sur le front proche-oriental qu'ukrainien, d'apparaître en faiseur de paix, et ça la mettrait mal pour le faiseur de paix si les Russes relançaient leurs attaques dans 6 mois?
Bien sûr, Trump redoute plus que tout d'être humilié dans son image. Il est prêt à dealer n'importe quoi à partir du moment qu'il respecte en fait les promesses qu'il a faites. On se souvient qu'il a montré aux Américains, il le répète sans cesse, que lui, il s'est arrêté la guerre. Et je pense qu'il en est capable, parce qu'il va mettre sur la table tout ce qu'il faut pour arrêter la guerre, y compris des concessions et qui seront supportées par les Européens et bien sûr, en premier lieu, par l'Ukraine. Mais il y a une limite qui est extrêmement importante, c'est que il ne fait pas la différence entre arrêter la guerre et construire la paix.
Et faire la paix.
On le voit très bien au Proche-Orient, et ce sera la même chose en Ukraine, et malheureusement on en a l'exemple tragique en Corée. C'est pas parce qu'on fige une guerre et qu'on dit qu'on a un accord de cessez-le-feu. Je rappelle qu'on est toujours en accord de cessez-le-feu hein, en Corée après 75 ans. Qu'en fait, on construit la paix. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a obligé Netanyahou à stopper sa guerre contre Gaza qu'on va avoir une paix durable au Proche-Orient. Ce n'est pas parce qu'il fige en Ukraine qu'on aura une paix durable en Europe.
Ulrich Bouna, ça va durer des années, cette tentative de faire la paix en Ukraine, en quelques mots?
Alors, je ne pense pas que ça dure des années. On peut arriver à un cessez-le-feu en quelques mois. En revanche, faire la paix, effectivement, ça prendra très longtemps.
Merci Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Eurocréative. Merci à vous également, Guillaume Ancel, ancien officier chroniqueur de guerre et auteur du blog « Ne pas subir ». Un grand merci à la cellule invitée à Sigrid Azerwal et à la réalisation ce soir, Fabrice Violet.